RMC.
Bounce card right to Jordan. Time winding down. Michael for three. Yeah! Yeah! Yeah!
Basket time.
Final seconds. Bryant for the win.
Pierre Dorian.
Basket Time sur RMC, votre rendez-vous basket du mardi exceptionnellement cette semaine. Dès le lundi, on vous gâte à la fin du premier match de ce tour 1 des playoffs 2023. On va faire un premier point, je ne vais pas dire un bilan, un premier point. Va-t-on vers des surprises lors de ce premier tour? Et puis on va se projeter carrément sur les playoffs 2023. Qui est le mieux armé pour battre Milwaukee, qui est notre favori dans ce Basket Time, avec aujourd'hui une Dream Team qui s'est levé de bon matin pour un podcast du lundi. Stephen Brun, Sacha Alix et Fred Weiss. Bonjour messieurs.
Salut Pierrot.
Est-ce qu'il ne vous faudrait pas un petit shaker plein de vitamines là? Un petit... Stephen a l'air de mauvaise humeur. Sacha, lui, bon, il a des cernes encore. Il a dû se coucher à 3h du matin. T'as joué à FIFA ou à
Touquet? Ah non, mais j'étais devant les playoffs.
T'es devant les playoffs. Tu veux me faire croire ça? T'as joué à Touquet, non?
Même pas.
Et Fred, Fred est galère lui-même.
5h du matin, donc ça va. Tranquille.
Très bien. Alors, vous êtes en forme?
Oui.
Spécial play-off, va-t-on vers des surprises lors de ce premier tour? Il y a quand même eu quelques belles surprises, notamment la victoire de Miami face à Milwaukee. Qui est le mieux armé pour éliminer Milwaukee de la course au titre? Et puis, on va partir de la performance de Darren Fox, qui a mis 38 pions au Golden State Warriors, pour cette question dans la partie historique. Vous allez me parler de ce qui vous semble être la plus grosse performance d'un joueur qui découvre les play-offs. Voilà. Alors, il y en a des grands joueurs. Bien sûr, je suppose qu'on va parler de grands joueurs.
Oui, pas des triangles, des trucs comme ça. Pas des mecs qui...
pas des seconds couteaux.
Des mecs qui ne servent à rien, quoi.
Et puis, alors pour le quiz, on va innover, mais rien de grave.
C'est-à-dire ?
On va faire une boucle. Ce quiz sera une boucle.
C'est-à-dire ?
Nous allons partir des play-offs 2023. Par association d'idées, on va comme ça revisiter plein de séries de play-offs récentes. Hein. On va pas aller très loin.
On
va revenir à la fin à ces play-offs 2023.
Okay. Ah, vous avez compris? On va partir des play-offs 2023, tac, pour finir par les play-offs 2023.
Voilà.
Un temps sur soi.
Ça changera absolument rien.
Mais t'as préparé ça hier, dimanche soir?
J'ai préparé ça dimanche soir, absolument.
Ah, parce que quand le PSG joue pas le dimanche soir, t'as du temps libre.
Devant Lakers Memphis, ou Memphis Lakers plutôt. Vous êtes prêts? C'est parti.
Davis with the flush. Beautiful setup from the beautiful pass. Hachimura filling the lane. Reeves 21 points, 3 assists. Gets inside, off balance. Jumper, got it, a go. Side Sabonis with a punt.
Good cut, fade, count it, and the foul. Mikal Bridges. Harden in, splashes one from the outside. It's a three.
Alors, va-t-on vers des surprises lors de ce premier tour de play-off? Évidemment, ça arrive tous les ans hein, qu'une série démarre pas comme on l'attend, mais il y a quand même des résultats significatifs. La victoire de Lakers face à Memphis, donc les Lakers tête de série numéro 7 qui récupère l'avantage du terrain. Les Clippers qui vont gagner à Phoenix, alors là c'est une série équilibrée. Sur le papier, évidemment, mais là aussi, l'avantage du terrain a changé. Miami, c'est le plus étonnant, qui est allé gagner à Milwaukee 130 à 117, et les soucis pour Giannis Antetokounmpo. Et puis même New York, qui gagne à Cleveland. On va en dire un mot. Pour le reste, je ne pense pas que Sacramento, qui gagne à Golden State, on puisse considérer ça comme...
Chez eux.
Qui gagne, oui, ouais. Chez eux face à Golden State. C'est pas vraiment une surprise. Ouais, d'accord.
Bah, c'est bien commencé les playoffs quand même pour Sacramento. Tout le monde se disait qu'ils étaient déjà satisfaits, nous les premiers, d'être en playoffs et finalement s'imposer comme ça dans un match un peu compliqué où les Warriors ont dominé au début, c'est pas mal.
Mais Sacramento peut battre Golden State sur une série de 7, on est d'accord.
Oui, il va falloir confirmer maintenant parce que, enfin, on en parlera plus tard, mais Sacramento fait un match exceptionnel et je trouvais les Warriors un petit peu moyens. 50 tirs à 3 points tentés, c'est beaucoup.
C'est beaucoup. Mais ils commencent bien. Ils sont un peu trop faciles sur la fin.
La bonne nouvelle, c'est que Wiggins s'est rejoué au basket après 2 mois d'inactivité. Il a été plutôt bon en sortie de banc. Donc Sacramento Golden State, c'est une belle série.
Alors on va passer vite sur les 3 premiers matchs qui sont logiques. C'est-à-dire Denver qui détruit Minnesota. Bon, je pense que Minnesota, oui. Ça va faire...
Après, ils ont peut-être lâché un peu de gomme sur la qualif.
C'est tout l'un ou tout l'autre.
Quelle est l'ambiance?
Ça met du rythme comme Miami.
Quelle est l'ambiance dans l'équipe, si on peut se poser la question quand même hein.
Je pense qu'on passe à autre chose.
On a vu le vestiaire après la qualification et on avait l'impression que ça allait pas trop mal.
Après Denver, ils ont perdu 7 matchs hein, cette saison seulement chez eux. Donc, aller gagner là-bas. Après, au bout de 30 minutes, le match est fini.
Le problème, c'est qu'ils les ont battus à 80 points, donc bon.
Oui. Après, c'était garbage time pendant plus d'un quart temps. C'était fini ça. La fin du
Philadelphie bat Brooklyn aussi de manière propre. Logique, propre. Et Boston-Atlanta, pareil. On va pas s'éterniser.
Là, c'est encore plus que propre. Là.
Oui, là, c'est.
Il y avait 30, plus 30 à la mi-temps pour un triangle.
Ça, bah, ça par contre, ça sort 4-0, on est d'accord.
Il y a une fixette, mais oui.
Stephen, ça sort 4-0.
Oui, je pense.
Arrêtons-nous sur la victoire des Lakers à Memphis. Parce que ça a été un match très serré pendant longtemps. Que les Lakers ont gagné. Alors, moi, je pense, pour le coup, pour une fois, j'ai vu un match pratiquement en intégralité, mais parce que Memphis ne sait pas gérer la fin de match. Ils font un peu n'importe quoi dans les moments clutch, non ?
Il y a la blessure de Jamoran qui leur fait mal aussi, où le poignet il part de, à l'envers en fait, donc on est un peu inquiet là-dessus.
Il a raté le match 2, hein, déjà.
Après, les Lakers s'en sortent parce qu'il y a deux role-players qui sont fantastiques, Rui Hachimura qui à un moment donné a un petit coup de chaud à 3 points, et puis Austin Reaves. Tout à l'heure on parlera des meilleures performances pour la découverte des playoffs. Austin Reaves mérite d'avoir une mention honorable. Et puis il faut parler d'Anthony Davis qui pour moi a une présence athlétique, enfin une première mi-temps monstrueuse dans la dissuasion.
Son début de match il est juste monstrueux, il domine tout le monde, il est le rebond offensif, il met les contres, il défend, il met des shoots, des gros shoots alors qu'il est souvent pris à deux.
Un match de crack.
C'est très très fort.
Match de patron au contraire de LeBron.
Alors sauf que quand on le bouscule un peu, il a oh là là,
il a on a dit qu'il est beau. À mon avis, c'est ce que c'était, tu sais, comment on appelle ça là quand on
le
tape
tennis
là,
elbow.
Tu sais, quand on tape là, dans le truc, ouais, tu sens plus.
Ouais, c'est le tennis, c'est le bossa.
Ah oui, d'accord, je vois le petit coup d'électricité là dans le.
Ouais, lui, il a cru qu'il s'est amputé du bras.
Match exceptionnel en termes de domination, mais il y a un petit problème dans la tronche là, non ?
Il est fragile.
Il aime pas se faire mal, il a peur.
Après, il a eu tellement de blessures, il a eu tellement de soucis qu'on peut comprendre qu'il ait peur, mais c'est vrai que dès qu'on touche, il est tout de suite très, très inquiet.
Alors, c'est toujours difficile de faire des plans sur la comète, mais est-ce qu'il vous semble qu'on peut avoir une surprise dans cette série ? La surprise serait quand même que les Lakers tapent Memphis deuxième à l'ouest, non ?
Je pense qu'on peut, on peut se diriger vers ça.
Sacha ?
Ah, je suis assez d'accord. Ça fait plusieurs saisons que je trouve que Memphis, c'est pas que c'est en stagnation, mais ils ont encore cette friabilité en play-off et on voit qu'ils peuvent craquer dans des instants chauds, là où tu vois que l'expérience des Lakers a payé. Juste, moi, je suis pas d'accord sur le match de LeBron. Je trouve que LeBron sacrifie.
Ah, t'es connu, tu vois, il se fait détruire par Jaren Jackson Jr. sur tous les post-up. Hein.
Donc, je pense que LeBron a fait un très bon match pour le collectif de son équipe en s'impliquant notamment défensivement et en sacrifiant son corps sur pas mal d'actions.
5-4,
en mettant un panier aussi très très clutch. Après, c'est sûr que c'est pas lui qui va prendre la star sur ce match-là, mais j'ai rarement vu LeBron dans un rôle comme ça où il accepte de laisser beaucoup de responsabilités. Ça permet à des mecs comme Reeves de briller. On voit qu'il l'encourage, etc. Je trouve que c'est des bons signes. C'est et cool. Je pense que Memphis, c'est clairement l'équipe qui peut nous décevoir.
Moi aussi, je peux encourager Reeves. Hein. Donnez-moi un maillot des Lakers. Moi aussi, je peux leur
tu n'es pas LeBron James. Ouais,
LeBron James impliqué défensivement. Sacha, je peux pas te laisser.
J'ai donné un argument pour défendre LeBron James. Moi, ce que j'ai trouvé pas mal dans ce match. Alors, défensivement, c'est sûr que c'était pas ouf. Mais c'est que dans les moments vraiment où c'était serré, où le match peut basculer parce que Memphis prend 4-5 points d'avance, il a mis des paniers importants en allant quand même dans le trafic. Et alors, pas sur les tirs extérieurs où là, il est assez agaçant. Enfin, bon, bref. Mais j'ai trouvé que à 38 piges, le garçon, il peut encore te.
Il a empêché que le match bascule
rapidement à l'avantage de Memphis en deuxième période. Et pour ça, d'après moi, il a laissé son équipe dans le match. Et il ne faut pas trop négliger quand même l'apport d'un mec qui met 22 points ou 21 points à 38 ans.
Fred n'est pas d'accord, il a raison.
Alors, tu sais combien j'aime LeBron, mais j'ai l'impression que de plus en plus, il attend sur la première mi-temps, il se repose de plus en plus. Il avait fait contre les Wolves, il avait joué, il avait mis 3 points, je crois, sur la première mi-temps. Donc, j'ai l'impression qu'il prend son temps. Effectivement, c'est LeBron. Donc, de ce fait, tu es obligé d'être concentré sur lui. De ce fait, tu es obligé de faire attention. Mais je trouve qu'il est quand même un temps en dessous.
Il change de rôle. C'est un leadership qui est différent. C'est le leadership du vieux qui dit allez-y les petits, faites-vous plaisir.
Il fait une saison de vieux. Et la transition, elle est très rapide entre
je
fais une saison magnifique, parce qu'elle est encore magnifique, sa saison. Et là, sur ce match-là, je suis pas d'accord. Mais ça veut pas dire qu'il est mal joué. Je trouve qu'il était un petit peu en dedans. Je trouve que de temps en temps, il s'est reposé sur ses.
On a quand même vu à la fin où Austin Reaves est on fire. Austin Reaves prend le ballon et dit à LeBron, dégage, va dans le corner. C'est moi qui joue les iso. Alors peut-être que LeBron, on peut lui dire, il a cette qualité de reconnaître qu'un mec est chaud et de s'effacer et de laisser Austin Reaves briller.
C'est une vraie qualité.
Moi, j'attends pas LeBron James comme le quatrième ou cinquième meilleur joueur des Lakers sur une série de playoffs.
Bien sûr, mais moi, je trouve que c'est une intelligence de se dire que sur un match, Il a une première mi-temps qui est pas bonne, où il casse le rythme, je pense, aussi du collectif qui est autour de lui, parce que justement, offensivement, il se met dans du LeBron où il calcule personne. Il se réajuste bien dans la deuxième mi-temps, et je pense que c'est un vrai signe de leadership dans un match où il y a une rivalité. En plus, on sait qu'il s'aime pas avec Memphis et qu'il les déteste. Avoir à cet âge-là, avec la carrière que t'as, quand on dit que c'est l'année où tu deviens peut-être le GOAT, le courage, entre guillemets, de faire un petit peu un truc plus dégueulasse, de te mettre en retrait et de laisser les jeunes performer. Et je pense que d'habitude,
il passe dans le dos pour Austin Reeves quand même, là.
Le talent, on peut pas. Tu peux pas critiquer.
Moi, j'ai préféré la passe dans le dos d'Austin Reeves pour.
Elle est sympa aussi.
En tête de raquette. Qui c'est qui filoche? C'est
Hachimura. Et c'est hyper symbolique. Et franchement, LeBron, à part le voir laisser les clés à Davis, le voir laisser des clés à des Reeves et trucs comme ça, je trouve que c'est un signe fort. Et c'est ça que j'ai apprécié. Et c'est peut-être pour moi ce qui va faire la différence dans cette série.
Après, Austin Reeves, il jouerait où en pro? Plutôt au Cholet?
Non, à Boulazac. Boulazac, c'est une ville pour lui. Austin Reeves, qui est en fin de contrat, qui n'a pas été drafté. Hein. Il peut prendre le jackpot l'année prochaine. Austin Reeves. Seul bémol de cette série, de ce match-là, c'est qu'à un moment donné, j'aurais aimé voir Anthony Davis en bune à bune contre Jaren Jackson Jr. Est-ce qu'à un moment donné, on se dit pas, allez, les deux stars qui sont un peu du même gabarit, Anthony Davis, LeBron James s'est fait détruire. Bon, alors chacun en post-up, c'était deux points.
Moi, je suis d'accord. Moi, j'imaginais que les deux allaient s'affronter, parce qu'il met 31 quand même, Jared Jackson. Hein.
Vous êtes assez unanime donc sur le fait que la surprise peut venir de cette série. En revanche, on a du mal à croire que Miami, même s'ils en ont mis 130, puisse battre Milwaukee. Alors, évidemment, il y a l'incertitude Antetokounmpo qui a joué que 10 minutes. Est-ce qu'on a des infos fraîches, Sacha?
Fraîche, moi, ça date de dans la nuit, donc contusion au dos, et on va observer.
Ça n'a pas dormi. J'ai suivi l'IRM en direct.
on va voir comment ça va se passer pour Antetokounmpo. Après, on sait que c'est un habitué à faire un match où il peut se blesser. Il l'a déjà fait sur plusieurs playoffs, et après il revient en cours de série et tu sens qu'il est quand même très très chaud. J'espère que c'est ce qui va se passer pour lui.
Il perd plutôt très très vite quand même. Il a une qualité musculaire incroyable.
On va dire, je pense qu'on va pas épiloguer longtemps, surtout qu'on va parler plus longuement de Milwaukee tout à l'heure, mais. Est-ce que avec Antetokounmpo, est-ce que sans Antetokounmpo, il y a un risque?
Oui.
Un vrai risque.
Oui.
Le risque existe réellement. Oui. Est-ce que tu penses que s'il ne revient pas vite, il passe à la trappe?
C'est vers quoi il ne revient pas vite?
Disons, il rate encore trois matchs.
Ah, il rate trois matchs, je pense qu'il va faire ça.
Attendu. Oui.
Parce que cette équipe du 8, elle a galéré, elle est passée par le deuxième match des play-in pour se qualifier.
Elle a des qualités.
Mais l'année dernière, elle est finaliste de conf contre les Celtics. En 2020, dans la bulle, ils sont finalistes NBA contre les Lakers.
Personne n'a envie de se cogner les
Lakers. Non, parce que c'est
bien
coaché.
Et il y a toujours Jimmy Bucket
qui a mis 35. C'est une équipe 11, bien coachée, c'est une équipe de chien des bois, c'est une équipe
42 minutes,
il joue. Un paquet de joueurs non draftés.
Par rapport à un chien de la crasse, un chien des bois, c'est pire ou.
Ouais, c'est pire. Parce qu'un chien des bois, c'est un mégo, il y a des loups, il y a des. Ça arrive.
Moi, je dis que c'était une loupe dollar, mais j'aime bien ça aussi.
Le
chien de la casse, il était habitué à se battre. Il est...
ouais, c'est pour ça, par rapport à un chien des bois, je connaissais pas.
Chien des bois, il en alerte. Bon. Il y a un ours, il y a un hyène,
il y a un loup.
Mais non, t'as des mecs qui ont drafté. Hier, même quand Yanis est là sur le début de match, je t'annonce que Miami, ils font un début de match de patron. Hein. Max Truss et compagnie, ils sont très bons.
Puis il y a les deux autres séries. Alors là, évidemment, sur le papier, c'est plus serré, mais Cleveland-New York et Phoenix Clippers. Faut peut-être dire un mot quand même de ce match-là.
Après, c'est 4-5, donc est-ce que c'est vraiment des
non, c'est moins des surprises, évidemment. Mais il n'empêche que les Clippers ont récupéré l'avantage du terrain. Et que dans ce genre de match, l'avantage du terrain, c'est très très important. Et puis quand t'as Kawhi au top.
Kawhi, il se goûte meilleur.
Mais surtout que t'as un problème de banc au Suns. Ouais, un vrai problème de banc. Il met 10 points. Le banc met 10 points. Et t'es obligé de faire jouer Kevin Durant 45 minutes, Booker 43 minutes. T'as un vrai souci quand même par rapport à ça.
C'est-à-dire que le banc d'équipe, il a bien performé avec Mann, avec Plumlee.
C'est ça la problématique de cette équipe des Clippers.
On l'a toujours dit.
Ils sont surarmés et doublés à chaque poste.
Et encore, Tyronn Lue a coupé le roster. C'est-à-dire que c'est Nico Batum qui démarre, Maurice joue pas, Bébert Covington joue pas. Donc ils jouent à 8,5. Mais je vous l'ai dit, Kawhi Leonard est un joueur exceptionnel. Hier, il fait un match de patron des deux côtés du terrain. Russell Westbrook,
t'es le premier à le dire que Kawhi.
J'ai l'impression qu'il est passé un petit peu, tu vois. On a beaucoup parlé des autres cette saison.
C'est un peu inquiété, mais sur la fin de saison, on a vu qu'il revenait très très bien. Il a 38 points, c'est énorme comme sur un jour de match.
Westbrook a envoyé 3 sur 19, c'est des stats à la Pierrot d'Orion, mais il a fait d'autres 3 choses.
3 sur 19 ouais. Moi je suis content si je fais 3 sur 19.
Je fais 3 sur 19 en NBA.
Mais pourquoi Biyombo joue pas plus? Parce que c'est vrai que sur le banc, il n'y a pas grand chose, mais lui, il a.
Le problème c'est de Bismack, c'est qu'il avait pas les mains pleines de pouces. Hein. Donc il peut envoyer un peu
du bois charbonné. Il peut servir à autre chose quand t'as Durant, Booker, Chris Paul. T'as pas forcément besoin d'un intérieur qui met plein de points, non?
Ouais, après il compte sur DeAndre Ayton aussi. Mais Zubac a été très bon, il prend 15 rebonds. Attention à Phoenix, hein, je dis, c'est pas cadeau. C'est pas cadeau l'éclipse.
Et un dernier mot quand même de Cleveland, New York. Une petite. Donc New York qui remporte ce premier match, c'est une surprise pour vous ou pas?
Pas trop.
Quel match?
Jalen Brunson, un patron. Franchement, je ne m'attendais pas à ce niveau-là.
Le problème, c'est que Dallas ne l'a pas respecté.
Il y avait Charles Brunson après, et Hart, Jalen.
Et Hart a été très bon aussi. Lui aussi, lui, il a apporté énormément. Donc, franchement, une belle équipe.
Même Randle fait un bon match. Alors qu'en play-off, c'est pas. Enfin, d'habitude, il arrive cramé en play-off, Randle, avec
là,
les Knicks.
Mais là, il a été très, très bon. Très sport,
hyper intéressant.
Surtout,
donc,
ouais, mais Evan Mobley passe au travers du côté des Cavs. Donovan Mitchell prend 30 tirs. Je trouve que c'est beaucoup. Et surtout, attention, parce que New York, cette saison, a beaucoup plus gagné à l'extérieur qu'à domicile. Donc, rien n'est fait. Moi, je sens qu'il y aura un Game 7.
J'ai crainte pour Cleveland parce que, en fait, Donovan Mitchell, quand ça se passe mal dans une franchise, c'est là où il peut faire des trucs un peu bizarres. C'est ce qui s'était passé à Utah. Et s'il y a une difficulté avec New York, j'ai bien envie de voir, avec Cleveland, pardon, j'aimerais bien voir comment ça s'ajuste parce que j'ai peur qu'on revive un cycle qu'il a eu avec Utah en plus rapide si ça se passe mal avec Cleveland pour Donovan Mitchell.
Tu as envie de te faire Donovan Mitchell à la fin du talk. Hein,
Non, parce que
tu l'aimes pas.
Non, pas spécialement, mais moi, j'aime bien.
Tu l'aimes bien ou tu l'aimes pas?
Non, mais Mitchell, j'ai beaucoup aimé, mais je le mets dans une catégorie de joueurs qui m'a déçu.
Comme David
Lillard. Non, il m'a jamais déçu, jamais aimé. À Utah, quand ça se passait très très bien, on avait toujours Donovan Mitchell très fort, et quand ça a été un petit peu plus compliqué, c'est parti dans tous les sens.
Mitchell le Trae Young.
Il n'y a pas de question. Sacha, quand Wembanyama va rejoindre Damian Lillard à Portland, ça va être un duo de feu. Tu vas changer d'avis.
Et quand Victor sera le patron de Portland, je serai très heureux pour lui.
Basket Time tous les mardis en podcast sur rmc.fr. On a avancé d'un jour aujourd'hui parce qu'on a vécu tous les premiers matchs de ce premier tour des playoffs et le favori, ça reste Milwaukee. With a little bump, and here is Butler. He too had 4-38. Road record of 17-24. Inside Butler, got it, counted, foul. 22nd leading scorer in the NBA. Giannis going inside. It's Matthews 3. Player of the Year award. That's a 3. Kevin Love. Carter has it, faking the 3. Robinson bit, and a floater. Alors, qui est le mieux placé pour battre Milwaukee? Évidemment, Milwaukee a perdu son premier match contre Miami. Milwaukee est suspendu au bulletin de santé de Giannis Antetokounmpo. Malgré tout, ça reste sur la saison une équipe qui fait peur à tout le monde. Alors, il vaudra chercher ce titre, hein, parce que le parcours de Milwaukee va être très très difficile. Il y a beaucoup d'équipes en face qui ont des atouts pour les contrer. Évidemment, on va commencer par Miami, mais il peut y avoir Philadelphie, il peut y avoir Boston, il peut y avoir de l'autre côté Golden State peut-être, ou Sacramento, enfin peu importe, Denver, pourquoi pas. Qui, selon vous, a le meilleur profil pour battre Milwaukee? Sacha, d'abord, comment s'est-il blessé le grec la nuit dernière?
Il a chuté sur le dos, en fait, sur le bas du dos. Il boite après ça, il n'arrive plus à marcher, il retourne au vestiaire, il va voir les médecins, il retourne sur le terrain, il ne le sent pas et il s'arrête tout de suite. Donc il parle d'une contusion sur le bas du dos parce qu'il s'éclate.
On a parlé de précaution quand même.
En fait, il va au lay-up, il y a Kevin Love qui joue le charge.
Comme d'habitude
d'ailleurs.
À la hit.
Et il retombe très fort sur le coccyx en fait. Donc je pense que c'est plus un gros coup qui l'a gêné.
Ça fait mal le coccyx.
Ça fait mal, mal au coccyx, un personnage d'Astérix. Non, il est revenu. Il est reparti. Après, je suis pas inquiet sur la suite de la série, mais c'est vrai que quand tu fais 120 barres et que tu tombes sur le coccyx, bon, il y a le squelette qui bouge un petit peu.
Alors, qui est le mieux placé pour battre Milwaukee cette saison, Fred?
Mais on en a parlé tout à l'heure. Pour moi, c'est les Clippers. Parce qu'ils ont un bond incroyable. Parce qu'il faut pas oublier que PG n'est pas là. Que malgré ça, ça tourne super bien.
Il jouera pas la série contre Phoenix.
Oui, non, mais je veux dire,
il peut revenir. Les Bucks en finale.
C'est ça que je veux dire. Donc, ce que je veux dire, c'est que on a à chaque poste des postes doublés. C'est intelligent, ça joue bien au basket. Et t'as un animal comme Kawhi. Moi, je me dis que c'est vraiment l'équipe la mieux armée, en tous les cas. Après, difficile à dire.
C'est-à-dire que c'est plus dur contre les Clippers que contre Boston ou contre Miami?
Ça va être très dur contre Boston, mais honnêtement, ça va être comme tu l'as dit, hein, ça va être compliqué à chaque match pour Milwaukee parce que toutes les équipes ont progressé. Et j'ai envie de dire, même si tu tombes contre New York, ce ne sera pas simple. Mais concrètement, l'équipe qui, pour moi, me paraît l'équipe qui devrait aller en finale, qui sera un opposant vrai dans cette finale, bah c'est
les Clippers.
Ouais, il me rejoint, il voit les Clippers champion NBA.
Mais j'ai un peu changé d'avis par rapport à ça. Mais
il faut reconnaître que Stephen nous l'a dit dès le premier podcast de la saison, lorsqu'on a fait les projections sur l'année.
Oui, c'est vrai. Ouais.
Évidemment, il s'est passé plein de choses.
Je suis encore en vie, encore. 1-0 pour le premier tour.
Sacha, qui est le mieux armé pour battre Milwaukee?
Moi, je dirais Boston quand même. Je trouve que c'est pour moi les deux meilleures équipes sur les deux meilleurs effectifs, coaching, enfin tout truc confondu en fait qu'on retrouve dans ces playoffs-là. Et c'est le duel de l'Est. Et pour moi, celui qui sort de ce duel-là prend le titre derrière. Je salue hein, ce que font les.
Tu penses que celui qui sort de cet affrontement prend le titre?
Franchement, ouais.
D'accord.
Je vois pas.
Tu penses que les Celtics vont battre Philadelphie?
Oui.
D'accord. Et qu'ensuite, ils vont battre les Bucks et le finaliste à l'Ouest?
Pas forcément sur les Bucks, mais c'est une équipe qui peut leur poser problème. On sait, en termes de coaching, un joueur comme Horford pour défendre Giannis, ça a déjà été très bien utilisé et ça a pu fonctionner. Après, on sait que le coaching Budenholzer est assez particulier puisque lui, il s'ajuste match après match. Il a plus de mal à s'adapter dans un match. C'est aussi ça qui fait que je pense qu'il, sur Miami, ils ont eu beaucoup de difficultés. Et pour moi, elle est là, la vraie rivalité NBA sur des équipes qui sont au top, qui construisent depuis des années. Il y a des armes. Boston, collectivement, en défense, en playoff, c'est super solide. Je pense qu'ils ont suffisamment joué Giannis dans toutes leurs aventures de playoff malheureuses pour comprendre comment triompher de cette équipe de Milwaukee. Steve?
Moi, je vais prendre les Sixers.
Ah.
Je vais prendre les Sixers parce que...
Autre scénario à l'Est, du coup.
Autre scénario à l'Est, c'est-à-dire que les Sixers passent au premier tour et tapent les Celtics.
Bon, on n'est pas trop inquiets non, pour leur premier tour face aux Nets.
Non, non, ils ont laissé passer l'orage Bridges en première mi-temps, puis après ils ont déroulé. Non, parce que je trouve que le Philly a tout en magasin pour perturber cette équipe-là. Du banc, déjà, avec des mecs capables de sortir du banc, de mettre des points. Et puis Joel Embiid, qui... face à Brook Lopez pourrait être un vrai problème insoluble pour les Bucks, parce que Joel Embiid, je pense, est capable de sortir au large pour défendre sur Brook Lopez, est capable d'emmener Brook Lopez au large et de le jouer, et je vois pas Brook Lopez être capable de défendre sur Joel Embiid, de lui provoquer des fautes. Je vois pas qui pour stopper Joel Embiid du côté des Bucks.
Après, inversement, qui défend sur Giannis?
Je pense que Tobias Harris est capable de se mettre au casse-pipe. Je pense que notre ami PJ Tucker, c'est PJ Tucker non qui est,
non c'est
et comme il s'appelle le tonton là. Qui fait des trucs défensifs.
Moi aussi,
là.
J'y pense aussi.
Le tonton qui fait des trucs défensifs.
Qui est Crowder.
Crowder, il joue au Bucks.
Ah non, mais Tucker, il est à Philly, c'est bon, les
oui,
gars.
Oui, Philly, il est à Philly, oui.
Non, je croyais que tu demandais qui pouvait
défendre. Non.
PJ Tucker, plus en réveille
la bête qui est en Stephen.
PJ Tucker, il est payé pour ça. De toute façon, il n'est pas payé, il n'a pas le droit de shooter. Donc, il est payé pour défendre sur Giannis Antetokounmpo. Que Tobias Harris est une troisième arme. Oui, oui. Est une troisième ou quatrième arme offensive qui a été très bon d'ailleurs sur le match 1. Que James Harden, pour l'instant, James Harden, son premier match des playoffs est très bon, que Tyrese Maxey est capable de faire péter n'importe quelle défense en sortie de banc, et je me dis que c'est l'année de Joel Embiid, l'année du titre.
Alors là, vous êtes en train de me vendre une finale rêvée, ce serait Embiid face à Kawhi. Où là, on verrait vraiment qui est le MVP, le vrai MVP de la saison.
Vive la France.
Vive la France.
Deux Français, Nicolas Batum contre Joel Embiid.
C'est vrai que ce serait beau. Hein.
Ce serait beau, non?
Imagine que ce soit Batum le champion.
Pourquoi pas?
Oui. Non, mais parce que c'est lui, on est sûr qu'il est français.
Tu sais qui est le dernier français champion NBA?
Je sais pas si t'as vu que Nando commence à s'impatienter.
Oui, j'ai vu.
Tout le monde commence à s'impatienter.
J'ai pas vu, non, j'ai pas cliqué, mais j'ai vu.
Et pourquoi t'as pas cliqué?
Je sais pas, pourquoi ça va pas. Non, mais tu sais qui est le dernier français champion NBA?
Le dernier français champion NBA.
Peu importe son rôle.
Peu importe son rôle.
Oui, peu importe son rôle.
Ça veut dire qu'il y a une astuce, un assistant coach.
C'est non.
Ah, oui. Ah, Toupane. Si.
Ouais.
C'est-à-dire un mec qui sert à rien, c'est ça que tu veux dire?
Pas dit, tu
m'as tendu la perche.
Ouais, au Bucks.
Pourquoi tu avais ce petit sourire là?
Non, parce que c'était un indice pour toi. Mais je respecte Axel, parce que t'aurais pu me dire.
En plus, il a sa bague. Hein.
Bien sûr qu'il a
bien
sa bague.
Sûr. Il mérite.
Et toi, qui va faire tomber les Bucks? Personne?
Qui va faire. Moi, j'espère que ce
soit. La blessure de Antetokounmpo peut faire tomber les Bucks.
J'espère que ce soit Philadelphie. Parce que
t'aimes bien les Sixers?
Ah, j'aime bien, ouais. J'aime bien Jojo, j'aime bien Harden.
Après, sur les Celtics, moi j'ai un point
d'interrogation. Tyrese Maxey n'est pas inintéressant, ouais. Comme on dit aussi.
J'ai un point d'interrogation sur Joe Mazzulla, s'il est capable d'aller très haut en plus. Lui aussi, il est rookie, hein, le coach des Celtics.
Ça compte, ça, vraiment?
Bon, un petit peu quand même.
Ouais, mais son équipe a de l'expérience. Donc, tu vois, tu as moins besoin de t'appuyer sur ton coach, entre guillemets, parce qu'eux savent comment faire pour aller
loin. Ouais, puis leur gars au-dessus, je pense que c'est pas Daryl Morey et Doc Rivers. Je pense qu'il y a une continuité qui fait que.
Ouais, mais il faut savoir prendre des décisions à l'instant T. Hein. T'as pas le temps d'aller voir dans les bureaux.
Je suis d'accord. Mais je pense qu'il y a l'écosystème autour, que je veux dire, qui est bien fait autour de ça. Et puis, il y avait une déclaration d'Embiid qui était assez intéressante au sujet de Boston. Il disait, mais il n'y a pas de rivalité avec Boston, parce que de toute façon, il nous casse le cul à chaque fois. Donc, même lui, il le sait. Pardon, désolé.
Alors messieurs, d'ailleurs, à ce propos, vous êtes pris pour des Américains, vous avez fait vos brackets.
Il est ouvert ma bracket. Une bracket est ouverte.
C'est une tradition aux États-Unis, donc dès qu'on a les tableaux, et ben il y a des concours de bracket et non pas de braguette. Donc il faut deviner à chaque tour qui s'impose par quel score.
On le mettra sur les réseaux,
les brackets de Basket Time sur les réseaux sociaux, bien entendu.
Toi aussi tu le fais.
Bien sûr. Juste en un mot, qui est champion NBA dans ton bracket, Fred?
En fait, je l'ai fait avant que Yannis soit.
Ah oui, mais c'est pas grave.
Donc Bucks.
Les Bucks, Sacha.
Ah, moi aussi, Milwaukee.
Les Bucks, Steve.
Après, j'irai à l'encontre du mois de septembre, oui.
Très bien, bravo.
Je vais au bout de mes convictions.
Bravo.
J'irai au bout de mes rêves aussi.
Alors, on va continuer bien sûr sur ce spécial play-off et on va partir de la grosse perf de Darren Fox pour son premier match de play-off pour la partie historique. The 7-minute mark, Fox accelerates, got it to go. Man, he popped the clutch. Fox guarded by Wiggins. This should be an intriguing matchup. Fox got to his office. Fox, float game pure. They go under the screen. Green switches on to Fox. Fox playing with his food. Shifted Green. And fourth quarter, Fox has been activated. Alors, Darren Fox pour son premier match de playoff brillant, voire très brillant. 38 points face à Golden State, 29 en deuxième mi-temps. Et ça, c'est important parce qu'on parlait des moments clutch. Il faut savoir le faire. Hein. Il y a beaucoup de grands joueurs pour l'instant qui n'ont pas encore cette faculté dans la nouvelle génération.
Il est sorti du bois, hein, Fox.
Il est sorti du bois, ouais. Il a pointé son museau.
C'est un chien du bois.
Il le fait dans un premier match qui a déjà marqué ses playoffs 2023, ce que certains considèrent comme un très grand match. On va se remémorer la performance de joueurs brillants pour leur première en play-off. Stephen, qui as-tu choisi ?
J'ai choisi à la surprise générale Luka Doncic. Ah. 2020, dans la bulle de Walt Disney, à Orlando, premiers play-offs.
C'est
de
la Luka facilité, Doncic, mais en même temps, c'est tellement vrai.
Ouais, c'est Luka Doncic découvre les play-offs face aux Clippers de Paul George et de Kawhi Leonard. Et puis il va établir tout simplement sur ce premier match ce qui est encore aujourd'hui la meilleure performance au scoring de l'histoire pour un garçon qui découvre la post-season. On est le 17 août, alors c'est toujours étrange de dire qu'il y a eu un match de play-off le 17 août en NBA. Luka Doncic porte les Mavs, 42 points, 9 passes, 7 rebonds, 13 sur 21 au tir.
Refais-moi la ligne de stats.
42 points, 9 passes, 7 rebonds.
C'est solide pour un rookie.
Ouais, c'est pas mal. 13 sur 21 au tir, gros pourcentage, 14 sur 15 de lancer franc. Malheureusement, c'est pas suffisant pour prendre ce premier match. Et pour info, Dirk avec les Mavs pour sa découverte des playoffs en 2001 contre Utah avait fait 20 points, 12 rebonds dans une défaite également. Luka Doncic, il finira cette série perdue d'ailleurs en 6 matchs, 4 à 2 à 31 points, 9,8 rebonds, 8,7 passes. Et on se rappelle tous de ce game winner, de ce step back fantastique au match 4 pour égaliser et pour emmener la série à 2 partout.
Est-ce que c'est le joueur qui t'a le plus impressionné,
oui.
Comment dire,
j'attends pas la fin de ta phrase, la réponse est oui.
Voilà, toute subjectivité mise à part, oui. Pour des débuts en play-off.
Oui, vraiment. Parce qu'il avait une maturité de équipe, garçon, il jouait une énorme équipe des Clippers, et à chaque fois, il a fait bégayer les Clippers quasiment à lui tout seul.
C'est vrai qu'il passe rarement au travers, quand même. Hein. Il est rarement décevant, quand même. Hein. Fred,
est-ce que
t'as trouvé mieux ?
Alors, mieux, je sais pas, mais différent. J'ai choisi LeBron James. Le 22 avril 2006, c'était son premier match.
On va pas dire non plus que t'as choisi la difficulté.
En même temps, tu m'as demandé de choisir ceux qui avaient les meilleures performances. Donc, forcément, c'est des grands joueurs que tout le monde connaît. Donc, j'ai pris LeBron James. Donc, juste pour recontextualiser, ça fait 7 saisons qu'il n'y a pas de play-off aux Cavs. Et après une année rageante, terminée 9e à l'Est, avec 42 victoires, 40 défaites. Dans sa troisième saison, LeBron accède enfin aux playoffs. Et là, il est très très chaud parce qu'il tombe contre les Wizards, donc Gilbert Arenas.
Un peu même configuration que Darren Fox finalement.
Hein. Oui, un peu ce principe là. Et là, par contre, ils ont l'avantage du terrain. Ils finissent quatrième et les Wizards finissent cinquième. Et donc, ils ont plutôt un désavantage au départ parce que sur les quatre confrontations entre ces deux équipes, c'est les Wizards qui ont gagné 3 fois. Donc, tu te dis que ça peut être un petit peu compliqué. Et là, commence le show LeBron James. Où il nous fait des tirs à 3 points, des pénétrations, des dunks, des contres, des passes, même une passe apparemment qui a fait lever tout le palais des sports parce que c'est une passe à la Magic un petit peu. Donc
le palais des sports.
Oui, c'est un palais des sports là-bas, à Cleveland. Ah, ça n'a rien à voir. C'est pas,
un Cosec.
Non, mais ouais, exactement. C'est un petit palais
le
des
gymnase.
Sports. C'est un gymnase, exactement. Le Quicken Loans Arena, c'est un gymnase. Et au final, victoire de 11 points pour les Cavs. LeBron aura passé 48 minutes sur le terrain pour une petite ligne de stats sympathique, 32 points, 11 rebonds, 11 passes, triple-double pour son premier match. Alors il vient pas de nulle part, hein. Il était deuxième au vote de MVP cette année-là, il était All-NBA pour la première fois, donc voilà, on savait qu'il y avait des grosses performances, mais un triple-double pour commencer les playoffs, c'est plutôt
correct. C'est un triple-double, c'est vrai que...
Bon. Et en 2006, c'est triple-double, c'était un peu plus rare que...
Voilà, c'est ça.
Exactement. Et alors, il faut reconnaître aussi à LeBron James que ses performances en playoffs sont tout simplement monumentales. Oui, le mec est allé en finale pratiquement toute sa carrière.
Parfois avec, avant avec des équipes en plastique, hein, parfois.
Avant de décliner un peu avec l'âge, mais c'est quand même colossal.
Un bon joueur.
Sacha,
un bon joueur de basket,
est-ce que tu as trouvé encore mieux que Luka Doncic et LeBron James?
Est-ce que c'est mieux? Je ne sais pas, ce n'est pas à moi de le décider. En tout cas, la prise de risque est peut-être à saluer parce que je pense qu'il y aura du désaccord.
Mais c'est ton truc, les prises de risque.
Mais on rigole parce qu'on sait qu'il a choisi nous, vous allez le découvrir maintenant. Vous.
Mais ça va peut-être vous refroidir un peu parce qu'on va parler de Ice Trey Young qui a découvert les playoffs pour la première fois avec les Hawks en 2021 avec un premier match à l'extérieur au Madison Square Garden. Je ne sais pas si vous vous rappelez de ce moment, mais on a un match à 32 points, 10 passes décisives, un flotteur à 0,9 secondes de la fin du terme pour donner la victoire à Atlanta. C'est tout simplement historique, puisque aucun joueur dans son premier match de playoff n'a lâché un game winner depuis Dwayne Wade en 2004. Et bah, c'est une performance qui reste dans l'histoire, parce que sur un premier match de playoff, faire, je crois que c'est 20 points, 10 passes, bah, il doit être 5 ou 6 à avoir fait. C'est des Chris Paul, des LeBron, etc. Donc il se met dans un club dans lequel il n'y a pas grand monde. Et surtout, il y a un moment qui est incroyable, c'est qu'il va faire taire tout le Madison Square Garden, il leur fait chute à la fin. Et finalement, il devient le maire de New York un petit peu après cette série-là. C'est ce qui a été écrit sur Wikipédia. Le Madison Square Garden, c'est chez lui. Et franchement, pour quelqu'un qu'on attendait beaucoup, dont on a pu dire qu'il n'était pas impactant pour son équipe, qu'il n'allait pas amener Atlanta vers des victoires, bah, ils sortent les Knicks au premier tour, ils font une finale de conférence. Au final, Trae Young a été très fort sur toutes les séries. Et je pense qu'il a montré qu'il était capable de gérer ces moments-là. J'ai juste envie de retrouver ce triangle-là, ouais, moi, en fait.
Tu le retrouveras peut-être ailleurs, parce qu'il est tellement fort que son équipe a dit qu'il n'était pas intransférable.
Non, mais c'est un peu le problème de Trae Young.
Par contre,
petite info, parce qu'il a découvert les playoffs en 2001, Trae Young, mais drafté la même année que Luka Doncic, qui lui a découvert les playoffs en 2020. Donc il a démarré une année trop tard, Trae Young.
Ah, c'est 2021. Ça, d'accord. Mais il a connu la finale de conf avant lui aussi. Hein. Il l'a connu avant beaucoup d'autres joueurs aussi.
Pierrot, tu sais qui est le mentor de De'Aaron Fox?
Le mentor de De'Aaron Fox.
Il est en contact avec un garçon pour qu'il lui donne des conseils.
Il me semble que j'ai vu ça.
Il s'inspire de lui, il envoie des messages. C'est un garçon que admire beaucoup Sacha, c'est Tony Parker.
Ah
ouais. Le mentor de De'Aaron Fox, c'est Tipeee.
C'est correct comme mentor.
Ouais, pour un mec qui a le niveau de Mario Chalmers, c'est quand même correct d'échanger.
C'était Rajon Rondo, celui de Trae Young. C'était pas au même level.
Est-ce que De'Aaron Fox finira au Hall of Fame?
Est-ce que Jrue Holiday finira au Hall of Fame?
Jrue Holiday.
Ça va dépendre du nombre de bagues.
Il a fait 16 passes hier, le petit coquin.
Bonjour, je roule l'idée. Pourquoi il n'y aurait pas
20 shoots,
oui, c'est ça.
Il faut bien shooter. Donc à la place de Giannis.
Il a un peu balancé quand même.
Il l'a dit, Fred, si Milwaukee a une dynastie, qu'ils prennent 3 titres en 5 ans ou plus, bah oui, il y sera, bien sûr.
Et après, il pourra
Holiday.
Oh, voilà.
Bon, je pense que Steve est chaud pour le coup. J'espère que vous êtes prêts, messieurs, parce que c'est maintenant. J'ai pas trop coupé les cheveux en 4. C'est parti là en premier. C'est parti chez Steve.
Ouais, comme chaque semaine, c'est parti.
C'est parti là-bas en premier.
Et là,
premier.
C'est après ou pas?
C'est Alex.
Le roi des corvères ménagères.
Ouais, exactement. C'est plus trash que ça. Hein. C'est plus violent.
Fuck you.
Bah, tu te rapproches!
Asshole, motherfucker! Son of a bitch!
I lock that shit up, boy! Fermé sa gueule à cette merde!
Tu commences à partir en process, qui croit après un titre, qu'ils sont.
Tu peux me laisser parler?
Alors, messieurs, donc, on a un petit peu innové, mais alors, il n'y a vraiment rien d'exceptionnel. Comme on vient de l'entendre, je n'ai pas coupé les cheveux en 4. Hein. On est parti de ces playoffs-là. On va faire une petite boucle dans le temps.
Ouais.
Voilà, par association d'idées, chaque question amène la suivante.
C'est une sorte de Jean-Claude Van Damme, ça.
Un peu, ouais. Peut-être qu'au milieu, on peut manger des légumes, mais... mais on reviendra à la fin sur ces premiers playoffs, ces premiers tours de playoffs 2023. Alors, d'abord, on va parler histoire. On va parler histoire. Trois joueurs dans l'histoire ont fait un triple-double en marquant au moins 30 points, d'accord, avant leurs 21 ans. Il s'agit de LeBron James, de Luka Doncic et de qui?
Ah. Et de qui?
Trois joueurs. Alors ça s'est passé cette saison. Trois joueurs.
Ah mais ça n'a rien à voir avec les playoffs, c'est en saison régulière.
Non. Alors ça a à voir avec les playoffs parce que c'est un des joueurs qui s'est illustré dans ce premier match
Jimmy
de premier
Butler.
Tour. C'est pas Jimmy Butler, non. 30 points dans un triple double avant d'avoir 21 ans, avant d'avoir fêté son anniversaire de 21 ans.
Il y avait quoi comme série?
Un joueur qui a brillé dans ce premier.
De'Aaron Fox.
De'Aaron Fox. On vient d'en parler. Un petit manque de réactivité, si tu me permets.
Oui, oui, c'est vrai, j'avoue, c'est vrai. Mais en fait, j'ai
l'intitulé, on a un peu nagé. Hein. Ah, voilà, il faut être réveillé. C'est comme ça. Donc, on va parler du retour des Kings en play-off,
oui.
Vu que c'est l'événement de ce premier tour. Après 16 ans de disette, ce qui est la plus longue période sans play-off dans l'histoire de la NBA. Donc, on va revenir à la saison 2006.
Ah.
D'accord, la dernière saison de play-off des Kings.
Une énumération?
Non, pas du tout. Ah. Il faut me trouver un joueur et c'est pas facile.
Ah, d'accord, ok.
Et c'est pas évident. Si je vous pose la question,
c'est que c'est compliqué.
Cette question-là particulièrement, c'est que c'est pas logique en tout
d'accord,
cas.
D'accord, ok.
Qui est cette saison-là en play-off, je dis bien en play-off, le meilleur rebondeur par match?
Par match, en moyenne par match.
En moyenne par match, qui est le meilleur rebondeur saison 2006?
Chris Webber?
C'est pas Chris Webber.
Rick Divac?
Comment t'as dit?
Rick Fox?
Non, comment t'as dit toi? Divac non plus. Mike Bibby, Stojakovic non plus. C'est pas évident.
Scott Pollard.
Non. Alors, c'est pas évident parce qu'il devance Dirk Nowitzki, Sean Marion et Marcus Camby, la machine à rebond. Et ce garçon-là n'est pas censé...
C'est le meilleur rebondeur de la saison.
Non, de play-off.
En play-off.
Alors, je vous dis tout de suite, ils sont vite sortis quand même. Il n'y a pas eu beaucoup de matchs pour eux.
D'Alembert?
Non, c'est pas un intérieur, c'est pour ça que c'est
Bobby King.
C'est un joueur des Kings.
Gerald Wallace.
C'est pas Gerald Wallace. C'est un joueur des Kings.
Jason Williams.
C'est pas un intérieur.
Ouais, mais c'est ouf.
Et il a passé qu'une saison aux Kings.
Ah ouais, c'est
quoi? Assez dur.
Ah ouais, ça y est, j'ai trouvé.
Ken Martin.
Tu as trouvé? Si tu veux, quel nom?
Quel prénom?
Metamorphis.
Meta World Peace.
Non, c'est pas Metamorphis. Non.
Ah ouais.
C'est un joueur des Kings. Hein.
Ouais, t'as compris.
Alors, son prénom.
Glenn Rice?
Non, son prénom, ça ressemble à un personnage de la série Happy Days.
Fonzie?
Tu l'as?
Bonzi Wells?
Bonzi Wells! Bravo Sacha. Sacha, il est bon sur tout ce qui est culture audiovisuelle, etc. Il est mort de rire. Ça y est, je l'ai mis dans le match. C'est Bonzi Wells qui a une moyenne de 12 rebonds sur ses 5 pauvres matchs de playoff.
5 matchs, ah ouais.
Ah, mais c'est énorme quand même, non?
Ouais, il suffit qu'il en ait fait un 16.
Après, tu vois, derrière, il y a Sean Marion et Marcus Camby, quand même, c'est fort. Donc ça fait. Et puis c'était pour parler surtout des Kings. Donc ça fait un point pour Sacha. Bonzi Wells, drafté
c'est la boucle, on continue.
En 98 par les Blazers.
Oui.
Qui est alors le joueur majeur des Blazers?
Scottie Pippen?
Non.
Rachid Wallace.
Rachid, bravo. Bravo Sacha. Sacha, il est bon, hein?
Oui.
Cache son jeu, mais il est bon.
Mais...
Il dit des trucs aberrants des fois, comme Tipeee, il n'a pas sa place au Hall of Fame.
J'ai jamais dit Tipeee n'a pas sa place au Hall of Fame. J'ai dit sans les Spurs, il n'y va pas.
Non, il est pas
dans Je plaisante.
Fred, je t'en rappelle, j'ai 31
ans. Fred, il pensait que j'avais 20 piges, c'est pour ça.
Et donc, grâce à Rachid Wallace, nous allons faire un petit tour de table. Association d'idées.
Les clubs par lesquels ils sont passés, Rachid
Wallace.
Pas
du tout. Ben Wallace, Rachid Wallace, les deux ou aucun des deux. Ok?
Oui.
Chacun son tour. Hein. Donc oui. Là, c'est Fred qui commence puisque ça ne changera rien, remarquez. On va faire un tour tranquille avec, en démarrant par Steve. Ben Wallace, Rachid Wallace, ou les deux ou aucun des deux.
Quatre possibilités.
J'ai été coach adjoint de Maurice Cheeks aux Pistons.
Rachid Wallace.
Rachid Wallace is the correct answer. Bravo, Stephen, c'était pas évident. Ça n'a pas duré longtemps pour dire que voilà, il a tenté sa chance en tant que coach, mais il a vite compris que c'était pas son truc. Sacha, je détiens le record de fautes techniques en une seule saison.
Ouah.
Rachid Wallace, j'aurais Ben Wallace, les deux mais, ou aucun des deux.
Bah, j'ai envie de dire les deux, mais je vais dire Rachid Wallace quand même.
Alors, je dis Ben.
C'est Rachid. Il y avait un petit piège parce que Ben, on peut penser Rachid avec un quand même. 41 fautes techniques saison 2000-2001. C'est quand même hallucinant, non?
C'est bon.
C'est
super mec. Super mec. C'est à cause des arbitres.
Je voulais que Fred me dise un mot, mais il est tellement stressé par le fait que ça lui répond.
Non, mais ça va être à moi.
J'ai joué aux Washington Bullets. Rachid Wallace, Ben Wallace, les deux ou aucun des deux? Il faut connaître la carrière des joueurs mythiques.
Le seul qui était capable de mettre des tirs à 3 points.
C'est à Fred de répondre.
Ouais. Mais Rachid ?
Les deux, mon cher. Rachid en 95-96, Ben en 96-97.
Alors là, gros, j'avais pas Rachid, j'avais pas Ben.
À toi, Steve, oui. Je n'ai pas été drafté.
Je n'ai pas été drafté ?
Rachid, Ben, les deux ou aucun des deux ?
Ben, c'est sûr qu'il n'a pas été drafté. Rachid, c'est sûr qu'il a été drafté. Donc, je n'ai pas été drafté. Je vais dire Benjamin Wallace.
Alors, Ben Wallace, jugé trop petit pour un pivot, n'est pas drafté. Signé agent libre par les Bullets en 96. Mmh. Donc, bravo, Steve. Sacha, j'ai fait 2 triples-doubles dans ma carrière. Ben, Rachid, les deux ou aucun des deux ? Ah, c'est pas si évident. Hein.
Je veux dire les deux, mais...
La bonne réponse était seulement Ben. Rachid n'a pas fait de triple-double et surtout... Des triples doubles à 10 contre à chaque fois. Les deux.
Ça, c'est beau. Bravo.
Ça, c'est exceptionnel. Ça, c'est
très, très 10 contre, moi, il me fallait 3 saisons pour faire 10 contre.
Non, j'ai pas mis 10 contre. Tu m'as pas dit une saison où t'as mis des contre.
Des rebonds, pas des contre.
Ah oui, des contre, ouais.
Fred, t'as fait des matchs à 10 contre ?
C'est dur. 7-8, un truc comme ça.
C'est pas mal déjà. Et enfin, j'ai pris ma retraite et je suis sorti de ma retraite pour rejouer en NBA. Rachid, Ben, les deux ou aucun des deux ?
Rachid.
Rachid, c'est la bonne réponse pour une saison à New York qui n'a pas marqué les mémoires, donc c'est si, un point méritoire.
La preuve, si, ça marque les mémoires.
Et du coup, ça s'est resserré. 3 points pour Steve, 3 points pour Sacha, 2 points pour Fred. Alors, lors de cette saison 2012-2013 où Rachid rejoint New York pour sortir de sa retraite, lors de cette saison, quelle franchise NBA a déménagé ?
Les Pelicans.
En début de saison. Pas du tout, Washington, mon cher.
Washington, Oklahoma City.
Non plus, ni l'un ni l'autre.
Ah, Grizzlies.
Non.
Hornets.
Ah, non. New Jersey, Brooklyn.
Exactement, ah, oui. Les Nets qui arrivent à Brooklyn, ça fait un point de plus pour Steve. Alors, donc les Nets de cette année 2013, toujours la boucle. Eh bien, dans l'effectif des Nets de 2013...
C'est Brooklyn.
Oui, des Brooklyn Nets de 2013, il y a un joueur...
Brook Lopez.
...qui dispute les playoffs cette saison, c'est Brook Lopez. C'est la bonne réponse, Fred, tu égalises... Ah non, il y a Steve qui a 4 points. Bravo.
Donc là, on est sur les frères Lopez, ensuite, là, dans la boucle.
Brook, Robin, les deux.
Lesquels ?
Aucun des deux. C'est exactement ça. Il a compris le principe. C'est pas mal. Gagné, Steve. Brook, Robin, les deux ou aucun des deux. Oui. Steve.
Oui, là, je maîtrise moins les frères.
Ah, mais c'est... Bon, on va voir. Qui a été drafté le plus haut ?
Qui a été drafté le plus haut ? C'est Brook.
C'est Brook, 10e par les Nets, mais Robin, 15e par les Suns. Hein. C'était pas si évident que ça. Qui a signé aux Bucks en 2019, Sacha ?
Robin.
C'est Robin, car Brook a signé en 2018.
Ouais, il y avait un petit piège.
Hein. Il y avait un petit piège, bravo.
Bien joué.
Qui est à plus de 2 contres de moyenne par match ? Écoute bien la question jusqu'au bout, Fred. 2 contres de moyenne par match lors de mes 2 années universitaires à Stanford, sachant que les deux ont fait leurs 2 saisons universitaires à Stanford. Il n'y a pas de piège là-dessus. Mais il y en a un des deux, ou les deux, ou aucun des deux, qui est à plus de 2 contres de moyenne sur la saison.
La tendance voudrait que ce soit Brook, mais je vais dire Robin.
Eh bien, tu as bien fait, car c'est Robin qui avait les meilleures stats à la fac, en contre en tout cas. Et ça te fait un 4e point, 2,23 et 2,25 contre de moyenne, ce qui est quand même solide.
Très beau.
J'ai fait le All-Star Game, Steve. Les deux, aucun des deux, Brook ou Robin ?
J'ai fait le All-Star Game ?
Ouais.
Je dirais Brook Lopez.
Uniquement Brook et uniquement en 2013, une seule année. C'est pas facile d'aller au All-Star Game, hein. Je porte le même numéro que Pat Ewing, Sacha ? Les deux, aucun des deux, Brook ou Robin ?
Robin.
Ah, c'est Robin, bravo, le 33. Et enfin, j'ai été entraîné par Mike D'Antoni. Fred.
Brook.
La réponse, c'était aucun des deux. Et là, j'avoue, il y avait un piège, puisque Robin arrive aux Suns en 2008 quand D'Antoni s'en va.
Okay.
Donc ils se sont croisés. Donc
là, maintenant on fait un quiz sur Richard D'Antoni.
Alors sur la saison 2008, saison 2008, donc la dernière de Mike D'Antoni, les Suns sont sortis au premier tour des playoffs par les Spurs. D'accord ? D'accord ?
Oui, si tu le dis.
Qui est le pivot titulaire lors de cette série aux Suns ?
Kurt Thomas.
Pas du tout.
Tim Thomas.
Comment tu dis ?
Tim Thomas.
Non.
Amar'e Stoudemire.
Non.
Ah ! Shaq.
Le Shaq, bravo ! Vous l'aviez oublié, ça, hein ?
Oui.
Le Shaq qui fait une saison...
Non, il n'a pas le temps, il débite des trucs. Moi, je le laisse parler.
Toi,
hein.
C'est l'histoire de ma vie quand je joue contre toi.
6 points pour Sacha, 6 points pour Stephen et 4 points pour Fred. Fred, t'es pas sorti du jeu parce qu'il reste des questions. Hein. Le Shaq, alors le Shaq, écoutez bien. Le Shaq est le joueur qui a pris le plus de rebonds offensifs de l'histoire en play-off. On parle pas de moyenne, hein. Le nombre de rebonds offensifs.
Nombre total.
D'accord. Qui est le joueur qui a pris le plus de rebonds défensifs dans l'histoire des playoffs? Timmy Duncan, il est là, Fredo. Il lâche pas. 6-6-5, quel magnifique quiz. Tim Duncan.
Non, parce que faut expliquer qu'à chaque fois on doit faire une boucle avec ton stylo et c'est
on
très
dirait,
drôle.
On dirait le couplet de I Am dans Demain c'est loin où ils reprennent le début d'une phrase avec le dernier mot de la dernière phrase. Tim Duncan.
Tim Duncan, trois fois MVP des finales NBA. Vous allez répondre chacun votre tour, hein, donc vous précipitez pas. Hein. Il y a quatre autres joueurs à avoir au moins été élu trois fois MVP des finales. Il faut m'en donner un. Donc, il y a quatre bonnes réponses. Vous êtes trois. C'est chacun votre tour. Mais c'est Fred qui commence puisque c'est toi qui as le moins de points. Trois fois MVP des finales.
Jojo.
Michael Jordan, six fois. Bravo. C'était pas dur. Steve.
LeBron James.
LeBron James, c'est bon. Quatre fois. Et Sacha. Sacha, il est dégoûté. Sacha.
Quand tu sais pas et qu'il faut sortir voilà, un mec exactement. Très fort et dominant, tu dis Bill Russell. Mais c'est pas lui.
C'était Shaquille O'Neal qu'il fallait dire, mon grand. C'était Shaquille O'Neal ou Magic Johnson. Donc là, ah, il fait mal celui-là.
Ouais.
Il fait mal parce que je pensais que vous l'auriez. Donc Magic Johnson, Michael Jordan, Shaquille O'Neal et LeBron James.
Donc là, on bascule sur quoi maintenant?
La question multipoint, mais elle est trop longue. Alors je culpabilise parce qu'il y en a qui se sont endormis déjà. Je compte les points. 6 pour Fred, 6 pour Sacha et 7 pour Stephen. Alors la question, LeBron James, donc on finit par lui, a inscrit 21 points. Lors du premier match contre Memphis, tour à tour, mais il y en a beaucoup. Vous allez me donner le nom d'un joueur qui a inscrit plus de points que LeBron James lors de ce premier match du premier tour des playoffs 2023.
Ok.
Alors,
qui commence?
Qui commence? C'est toi, Fred.
Hashimura.
Ah, c'est, et ben voilà.
C'est Christian.
Non, non. C'est le bracket là.
Hashimura 29 points, c'est bon. Steve.
Austin Reeves, 23 points.
Austin Reeves, 23 points, c'est bon. Sacha.
Je suis dans un mal absolu.
Mais non, là, quand même, là, au moins sur ce premier tour, là, tu l'as quand même. Au moins, plus de 21 points. 21 points, ça marche pas. Hein.
C'est que un joueur de Memphis.
Non,
n'importe quel match.
N'importe qui a joué.
Alors, quel match on vient de citer des mecs de Lakers déjà. Donc,
les 8 matchs du premier tour. Oh
voilà, c'est facile.
Bah, Fox, du coup.
Exactement, Darren Fox.
Pardon, j'avais mal compris.
Je prends juste ma bonne feuille pour barrer le nom. Vous me laissez deux secondes. Pourquoi je le vois pas, celui-là? Il est où? Où est-ce que je l'ai mis? Oh, c'est mal parti. Ah, il est là. 38 points. C'est toi, Fred.
Jaren Jackson.
Jaren Jackson, 31 points, c'est bon, Steve.
Jimmy B.
Jimmy Butler.
Jimmy Bucket, 35 points, c'est bon. À toi, Sacha.
Donovan Mitchell.
Et Donovan Mitchell, c'est bon, 38 points. À toi, Fred.
Middleton.
Alors, Middleton, 33 points, c'est excellent, j'ai envie de te dire. Steve.
Je vais tenter Derrick White, des Celtics.
Eh bien, c'est excellent. Derrick White a marqué 24 points. Il y en a encore beaucoup, hein, Sacha.
Oui.
À toi.
Bah, Kawhi Leonard.
Kawhi Leonard. On est bon, bien sûr, mais je le cherche sur ma feuille. 38 points, Kawhi Leonard. C'est bon. Vous êtes à 3 bonnes réponses.
Plus de 21,
plus de 21 points. 21 points, ça chute. Hein.
Kevin Durant.
Kevin Durant n'a pas marqué 21 points.
Non, il a marqué 27.
Il a marqué 27 points.
C'est vrai.
Et c'est exact. C'est juste que je n'ai pas regardé la bonne ligne. C'est bravo, Fred. 4 points.
Joel Embiid.
C'est bon. Joel Embiid, 26 points. À toi, Sacha. Pas dur, hein. Il y en a encore plein d'évidents.
Hein.
Oui. Faut juste pas tomber dans les pièges. Il y a 2-3 pièges.
Bridges.
Michael Bridges, 30 points.
L'homme de fer, hein. 83 matchs cette saison quand même, Michael Bridges.
Toi, Fred.
Adebayo.
Adebayo, ça passe avec 22 points. 22 points, Adebayo.
Ouais, presque triple-double. Hein. 22, 9, 7, je crois, un truc comme ça.
Il est solide.
Je crois que James Harden a numéro de 23.
23 puntos, excellent, avec une sérénité absolue, Steve. Ça ne joue à pas grand-chose, ce cousin Sacha.
Bah, Jalen Brunson.
C'est maintenant qu'il ne faut pas craquer, Jalen Brunson, 27. C'est parfait. Et donc, vous êtes à égalité. Là, 5 bonnes réponses chacun. Je vais vous dire combien il reste de joueurs. J'en ai 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8, 8, 8, 9, 10 encore.
Il y en a 10 quand même encore.
Il y en a encore 10, Fred.
Devin Booker,
c'est bon avec 26 points. On enchaîne.
Steph Curry.
Steph Curry a marqué 30 points. Sacha. Ça se raréfie. L'air se raréfie.
C'est vrai, je le sens.
J'essaie Jamal Murray.
Jamal Murray. Jamal Murray, 24 points. The good answer. Fred.
Malik Monk.
Malik Monk, ouais, 32. Bravo, Fred. Bravo, Steve.
Desmond Bane.
Desmond Bane, ça passe aussi avec 22. Ça passe juste, mais ça passe. Sacha.
C'est plus ce qui a été cité, ça le problème.
Et oui. Alors, surtout quand vous allez voir ce qui n'a pas été cité, vous allez, mais c'est pas vrai. Alors, il y en a un ou deux de pas faciles, mais tous les autres sont faciles.
Hein. J'en ai deux en stock encore.
J'en ai trois, je crois.
Mais... Sacha.
Est-ce que Tatum a été dit ?
Tatum n'a pas été dit, 25 points, je te l'accorde, c'est bon, bravo Fred.
Et son frère, Jalen Brown.
Exactement.
Putain, il m'a baisé mes deux joueurs, j'ai la haine.
Steve, il en reste.
Trouve ceux d'Atlanta, il y en a plein.
Je vais tenter, je sais pas s'il a mis 21 ou plus, je crois que Tobias Harris doit être à 21 ou 22.
Tobias Harris, je ne l'ai pas noté, ce qui veut dire qu'il est à moins de 21, il est à 21 exactement. Donc c'est fini pour Steve. Alors... Nous passons à Sacha. Pour égaliser.
Ah, je suis un abruti, pourquoi j'ai pas dit.
Il en reste un ou deux faciles. Hein. Allez, Sacha, si tu mets trop de temps, je te mets un gros.
Ok, pardon. Je suis nul, désolé. Hein. Mais je tente au plus, je dirais Anthony Davis.
Mais oui, Anthony Davis, bien sûr, 22, Sacha, c'est bon. Fred, c'est pour prendre la main, là. C'est pour gagner le quiz.
Je ne sais pas si ça a été dit. Dejounte Murray.
Mais c'est excellent, Dejounte Murray, 24 points, Fredo. Attention, je vais faire le point pour Sacha. Il te reste 1.
5, non.
Il te reste 1.
Un nom.
Un nom, qui n'est pas facile, qui est très difficile à trouver. Il te reste un nom, t'égalises. Ah ouais, t'égalises et vous partagez la victoire avec Fredo.
Oh.
Ouais, c'est pas facile, je peux pas te donner d'indice. Hein.
Wiggins, on l'a pas dit.
Non, mais il a mis 17.
Wiggins, on l'a pas dit, c'est normal, il n'a mis que 17 points. Et donc, il restait Torrey Craig avec 22 points.
Ouais,
c'est dur.
Et très, très belle victoire de Fred, je crois qu'on peut le féliciter.
Merci.
Bravo, Fred. À la semaine prochaine.
RMC Basket Time.